Comment peut-on définir un chrétien? Quelle est l'identité de ceux qui ont été baptisés? La réponse vient de loin, des tout débuts de l'Église. Lorsque Paul et Barnabé ont fondé une communauté chrétienne à Antioche. Et c'est justement à Antioche, écrit saint Luc dans les Actes des Apôtres, que pour la première fois, on a donné aux disciples de Jésus le nom de chrétien. Chrétien signifie appartenir au Christ, être de sa maison, de sa famille, marcher à sa suite, être son disciple. C'est cette grande vérité que saint Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe, autre communauté chrétienne, née et fondée en terre païenne, communauté jeune, généreuse, missionnaire, enthousiaste, mais qui avait aussi une fâcheuse tendance à se disputer, à se diviser, chaque groupe se réclamant de tel ou tel apôtre, de tel ou tel disciple. Saint Paul les exhorte à la nécessaire unité dans la foi et dans le même Saint-Esprit qu'ils ont tous reçu. Et cette unité provient justement du fait d'appartenir au Christ qui nous fait participer à son autorité sur toutes choses. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Nous appartenons au Christ puisque nous avons reçu l'Esprit même du Christ, le Saint-Esprit, qui fait de nous des enfants de Dieu. Dans le passage qui précède celui que nous venons d'entendre, saint Paul rappelle aux chrétiens les exigences de cette vie de fidélité au Saint-Esprit, qui nous donne d'être sages, c'est-à-dire de conformer toute notre vie à la sagesse de Dieu, telle qu'elle nous est révélée par la vie, par l'action, par les paroles, par la mort et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, dans son humanité très sainte, a toujours été parfaitement fidèle au Saint-Esprit et à la mission qu'il a reçue de son Père de nous sauver et de nous arracher au royaume de la mort et des ténèbres. C'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation. C'est lui qui nous donne la force et la grâce de combattre le mal dans nos cœurs et autour de nous, de travailler véritablement à l'établissement dès ici-bas de la justice du royaume, d'être fidèle au quotidien à l'Évangile. Mais l'Esprit ne fait pas que venir au secours de notre faiblesse. Il nous obtient aussi le pardon, spécialement dans le sacrement de pénitence, chaque fois que nous commettons un péché, chaque fois que nous oublions notre dignité d'enfant de Dieu, notre responsabilité de chrétien, notre vocation à la sainteté, notre mission d'annoncer le Christ à ceux qui nous entourent. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la sainteté, là est la vérité. Le Seigneur Jésus nous le rappelle dans le sermon sur la montagne dont nous venons d'entendre un des principaux passages. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Déjà Moïse avait averti le peuple d'Israël au moment où il lui communiquait de la part de Dieu les 10 commandements. Soyez saints comme moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. La perfection, la sainteté, la perfection dans la sainteté ne nous est pas possible si nous sommes laissés à nos propres forces. Parce que nous sommes des créatures limitées, et parce que nous sommes des pécheurs. La loi de mort qui s'est propagée dans la nature humaine depuis la première rupture entre Dieu et le genre humain par le péché originel empêche l'homme de réaliser un bien durable, l'empêche aussi de se maintenir dans la fidélité. À peine nés, nous sommes déjà condamnés à l'impuissance morale et à une mort certaine. Mais c'est justement de ce tragique destin dont le Christ est venu nous libérer. C'est la grâce de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu, et nous recevons dans les sacrements, et singulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, la grâce, la force, la capacité de répondre à notre vocation de sainteté et de perfection. Parce que Jésus se communique à nous dans le Saint Sacrement de l'autel, dans la communion eucharistique, il nous fait participer à sa propre sainteté. Nous pouvons alors nous poser cette question. Comment se fait-il que la communion eucharistique, voire l'absolution sacramentelle, reçue régulièrement et fréquemment dans la confession, ne fasse pas plus d'effet dans nos vies? Comment se fait-il que tous ceux qui sont autour de nous ne deviennent pas chrétiens par notre exemple et à notre simple contact? Comment aussi expliquer la présence dans l'Église de tant de chrétiens tièdes ou contestataires des exigences de l'Évangile telles qu'elles sont enseignées par la tradition bimillénaire de l'Église? Pourquoi les graves défaillances morales de tant de ministres du Seigneur? Pourquoi la décadence de tant de maisons religieuses? Il n'existe pas de réponse simple, mais on peut indiquer au moins une raison. Pour atteindre sa pleine fécondité et son entier rayonnement dans la vie des baptisés, la grâce divine doit être accueillie dans un cœur qui prie, qui a le désir vrai d'une authentique conversion et qui éprouve de véritables sentiments de zèle et de ferveur. La prière, la conversion, l'humilité se traduisent par le zèle, l'enthousiasme, la ferveur. En revanche, si nous sommes persuadés que nous pouvons très bien nous sauver nous-mêmes, c'est-à-dire avoir dès ici-bas une petite vie tranquille sans exigence, si nous sommes convaincus que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, si nous renvoyons l'exercice de la foi au temps que nous passons effectivement à l'Église, alors la perfection chrétienne n'est pas pour nous. Et la sainteté que Jésus veut nous communiquer ne portera dans nos existences aucun fruit de vie éternelle. Alors, soyons bien convaincus que le Seigneur nous donne les moyens d'être saints, d'être parfaits, c'est-à-dire de correspondre à son amour pour nous. Tout ce qu'il ordonne, il nous le donne. Alors ne mettons pas de limite à son œuvre, ne nous décourageons pas, puisqu'il ne nous demande qu'humilité et confiance. Sa puissance et sa miséricorde éclatent dans notre faiblesse pour notre plus grand bonheur et pour le salut du monde. Amen.